Bonjour à tous, c'est le dernier jour de notre série consacrée à l'économie de la Chine. Sortez vos masques anti-pollution, on va tester la qualité de l'air.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Peut-on être à la fois le champion du monde des énergies renouvelables et le plus gros pollueur de la planète ? Oui, quand comme la Chine, on investit massivement dans l'éolien et le solaire, tout en continuant à consommer la moitié du charbon mondial. C'est là tout le paradoxe chinois. Pékin veut apparaître aux yeux du monde comme le leader de la lutte contre le changement climatique, mais ses émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter, et les premières victimes sont les Chinois eux-mêmes, dont l'espérance de vie recule de 6 années dans les villes les plus polluées. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Parlons de la transition écologique selon Pékin en compagnie de Jean-François Huchet, président de l'UNALCO, Jean-Paul Maréchal, maître de conférence en sciences économiques à Paris-Saclay et Richard Balme, professeur des universités à Sciences Po. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet.
La route de la soie n'est pas un cercle fermé et l'environnement est en toile de fond. Nous promouvons des projets d'infrastructures écologiques, des investissements verts, et nous fournissons des financements verts pour protéger la Terre, que nous appelons tous notre maison. Tout devrait être fait de manière transparente, et nous devrions avoir une tolérance zéro pour la corruption.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre Xi Jinping lors du deuxième sommet international des routes de la soie qui a eu lieu à Pékin en avril dernier. On va faire un premier tour de table. La Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, s'est finalement convertie à l'écologie, Jean-François Huchet ?
Oui, d'une certaine manière, mais vous l'avez rappelé, c'est d'une situation très paradoxale, presque schizophrène, c'est-à-dire qu'on a à la fois le plus gros pollueur de la planète. Les chiffres disent qu'en 2040, la Chine devrait continuer à consommer un peu plus de 4 milliards de tonnes de charbon. Donc, bien évidemment, la pollution va rester. Maintenant, c'est un investisseur massif dans les énergies vertes et tout le supplément d'électricité qui va être nécessaire, à peu près un doublement sur 2040, sera certainement apporté par des énergies vertes. Il y a quand même un problème sur ce que disait le président Xi Jinping, sur le fait que la Chine aussi exporte aussi une partie de ses centrales à charbon et qu'elle contribue aussi à exporter une partie de sa pollution à l'étranger.
Il faut qualifier la position chinoise d'ambiguë, Jean-Paul Maréchal, vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, pour le moins, dans la mesure où effectivement la Chine s'est convertie à l'écologie pour des raisons, à mon avis, essentiellement de politique intérieure. Les niveaux de pollution de l'air, par exemple, sont tout à fait important, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 1 600 000 morts par an dus à la pollution de l'air, ce qui représente à peu près 17% de la mortalité en Chine. Bon. Et quant à l'idée que la Chine serait la championne des énergies vertes, ça mérite d'être examiné, puisque si vous regardez le mix énergétique chinois, les énergies vertes dans le mix énergétique chinois, les renouvelables en tout cas, sont inférieures à la moyenne mondiale.
On est autour de 15%.
Non, on est beaucoup moins. Si vous prenez les chiffres, par exemple, de chez BP, les renouvelables sans l'hydroélectricité, on est en Chine à 3,4%, tandis qu'aux États-Unis, on est à 4,2%, et dans le monde, on est à 3,6%. Donc on est bien, ouais, on est loin d'avoir un pays qui serait en tête en matière de proportion des énergies renouvelables dans son mix énergétique par rapport à plein d'autres pays dans le monde.
Alors on va revenir évidemment sur la question des énergies renouvelables, mais d'abord, Richard Balme, la Chine se convertit à l'écologie pour des raisons politiques, nous dit Jean-Paul Maréchal, mais aussi économiques.
Oui, bon, ce sont les habits verts du président Xi Jinping, pour reprendre la métaphore de Simon Leys, avec les habits neufs du président Mao Tse-tung. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Xi Jinping a affiché cet objectif de conduire la Chine vers une civilisation écologique à l'horizon 2049, pour célébrer le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. C'est un peu la stratégie de communication de son mandat. Derrière cela, il y a quand même des vraies politiques, des vraies orientations d'énormes problèmes intérieurs. Donc c'est un sujet majeur pour le leadership chinois que de traiter essentiellement la pollution au plan interne. Mais je dirais quand même que depuis l'origine du développement des politiques environnementales, la Chine a été relativement présente, hein, après la conférence de Rio en 1972, elle a créé un ministère des premiers programmes de politique environnementale à peu près en même temps que les pays occidentaux et sous la pression d'une forme de socialisation internationale pour défendre son image dans l'arène internationale. Ce qui a un peu changé, c'est qu'avec Xi Jinping, elle entend un peu prendre une forme de leadership, enfin, en tout cas être vraiment active sur ce sujet-là.
En 2014, le Premier ministre Li Keqiang parlait de guerre contre la pollution. Il faut noter aussi qu'en automne 2020, la Chine devrait être l'hôte de la COP biodiversité. Alors, il y a effectivement beaucoup de déclarations en faveur de l'environnement. On va voir si c'est réellement suivi des faits. Mais d'abord, il faut rappeler que la crise environnementale que traverse le pays est particulièrement grave. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Jean-François Huchet ?
Je crois que c'est tout un modèle de développement économique derrière. D'abord, la Chine, c'est essentiellement un modèle économique fondé sur l'industrie lourde et qui a duré encore bien plus longtemps dans l'histoire économique quand on compare à ce qui a été le cas des États-Unis, voire même de l'Allemagne, voire même du Japon, qui est une grande puissance industrielle. L'industrie lourde, qui occasionne bien évidemment aussi des demandes sur le plan énergétique massives, avec une conjonction sur le plan des ressources en matière énergétique. La Chine possède les troisièmes ressources mondiales en charbon. Elle peut durer comme ça à 4 milliards de tonnes pendant 150 ans. Donc effectivement, c'est tentant de se servir du charbon compte tenu de la situation internationale. Donc vous avez plein de raisons justement qui explique un modèle économique, des choix énergétiques qui se sont développés depuis pratiquement maintenant 50 ans, qui explique effectivement que on a une consommation massive de charbon, 8000 cimentiers, 4% des émissions de CO2. Bref, vous avez une Chine qui a choisi un modèle de développement qui est extrêmement vorace en énergie. Et ce n'est pas le Luxembourg, ce n'est pas Singapour. Faut à chaque fois multiplier par 1,480 milliard de personnes.
Et sauf que cette pollution est de moins en moins acceptée par la population, notamment parce que les épisodes d'herpocalypse, ces pics de pollution, se multiplient depuis les années 2000. Et en 2015, une journaliste chinoise, Chai Jing, sort un documentaire intitulé « Sous le dôme » qui rencontre un succès immédiat. On en écoute un extrait.
Voici le graphique des émissions de particules fines à Pékin en janvier 2013. Au cours de ce mois-là, il y a eu 25 jours de brouillard toxique. J'étais à Pékin et tout le monde disait que ce brouillard était dû à des facteurs climatiques passagers. Ce mois-là, je suis partie en reportage dans 4 provinces différentes. Quand on regarde le ciel dans ces vidéos, on peut voir que toute une partie de la Chine, 25 grandes villes, 600 millions de personnes étaient alors couvertes par un grand brouillard. J'étais moi-même au beau milieu de ce brouillard, mais je ne me suis rendu compte de rien, même si ça a eu un effet sur ma gorge. Le soir où j'étais à Jiang, j'ai tellement toussé que je ne pouvais pas m'endormir, et j'ai fini par couper un citron en deux, et je l'ai mis sur mon oreiller.
Ce documentaire a entraîné une prise de conscience au sein de l'opinion publique, Jean-Paul Maréchal, et a forcé les autorités à accélérer la guerre contre la pollution.
Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'en même temps, ce documentaire faisait lui-même suite aussi à une prise de conscience de l'opinion publique. Et je pense que si le pouvoir politique chinois s'est attaqué en priorité à la pollution de l'air, parce que les autres milieux sont aussi pollués, hein, l'eau, 20% de l'eau est impropre à la consommation, les sols, il y a eu un rapport sur la qualité des sols qui a été classé secret pendant longtemps avant qu'un certain nombre d'éléments soient déclassifiés, c'est parce que on peut penser que la pollution de l'air a cette vertu sur les autres pollutions, c'est qu'elle est transclassiste. Donc elle touche aussi bien les pauvres que les riches, et donc des gens qui ont accès en fait à la parole et qui maîtrisent suffisamment bien les codes de la Chine communiste pour pas se retrouver arrêtés immédiatement. Et donc je pense que c'est un ensemble d'éléments de ce type-là qui fait que la pollution de l'air, pour des raisons à la fois de politique intérieure, mais aussi d'image de la Chine, parce que les expatriés vivent plus dans les grandes métropoles, métropoles et donc sont plus touchés par la pollution de l'air qu'ils ne le sont par la pollution des sols et par la pollution de l'eau, qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience au niveau politique qui a conduit à un certain nombre de mesures.
Et puis, le pouvoir chinois a peut-être aussi été contraint de réagir parce que les manifestations en faveur de l'environnement se sont multipliées ces dernières années. Il y a vraiment l'essor d'une écologie militante auquel on assiste, Richard Balm.
Il y a eu, oui, un essor des mobilisations, des intérêts. Il y a une société, j'ose pas dire civile, parce que il faut pas suggérer qu'elle a la même forme qu'ici, mais enfin, des mouvements associatifs, des mouvements citoyens, des mouvements locaux, qui sont investis dans l'environnement depuis longtemps, à l'origine plutôt conversationniste, des gens qui protègent l'environnement, qui protègent les espèces animales, les espèces végétales, etc.
Et puis effectivement, depuis longtemps, parce que dès 98, il y avait eu les crues mortelles qui avaient été aggravées par la déforestation.
Voilà.
C'est assez ancien.
Donc il y a des mouvements assez anciens et parfois de manière un peu surprenante très effectifs. C'est-à-dire qu'on a des mobilisations qui sont parvenues à stopper la construction de grands barrages, s'opposer à l'installation d'usines chimiques, à stopper la construction de centrales nucléaires. Donc c'est un peu surprenant, un peu inattendu. Ceci dit, voilà, c'est pas la réalité de la politique environnementale chinoise au quotidien. Ça a une importance, hein, mais massivement, c'est quand même la pollution qui domine et la collusion du régime ou l'incapacité du régime, disons, à transformer un mode de production qui est éminemment dommageable pour l'environnement.
Mais c'est intéressant de souligner cet aspect, le fait que ces mesures en faveur de la protection de l'environnement ont un but à la fois politique et géopolitique, c'est-à-dire d'un côté maintenir la stabilité sociale et la légitimité de l'État, et de l'autre se distinguer aux yeux du monde vis-à-vis notamment de l'Amérique de Donald Trump qui, elle, décide de quitter l'accord de Paris sur le climat, Jean-Paul Maréchal.
Oui, sauf que là encore, il se trouve, c'est que sortie ou pas de l'accord de Paris, l'Amérique de Donald Trump a réduit ses émissions de dioxyde de carbone de 160 millions de tonnes l'année dernière, alors que la Chine de Xi Jinping, qui est restée dans l'accord de Paris, les a augmentées. Bon, ça c'est déjà le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que les engagements américains et les engagements chinois ne sont pas de même nature, puisque les engagements américains portaient sur une réduction des émissions de CO2, alors que les engagements chinois portaient sur une amélioration du rapport entre les émissions de CO2 et le produit intérieur brut, ce qu'on appelle l'intensité carbone. Et donc, il est évident, c'est que la Chine a choisi de s'engager dans le cadre de l'accord de Paris sur des objectifs qu'elle pourra atteindre sans faire d'efforts particuliers. Ce qui prouve bien que la Chine n'est pas un leader au sens de la théorie politique.
Alors justement, venons-en à ces efforts que fait la Chine en matière environnementale. L'objectif du gouvernement chinois, ça a d'abord été de tenter de diminuer la consommation de charbon, Jean-François Huchet.
Oui, bien sûr, parce que le fait même de brûler du charbon occasionne toute une série de pollutions, de l'air, de l'eau, des sols. Donc c'est vraiment l'élément majeur, puisque le charbon dominait au démarrage des réformes en 78 dans le mix énergétique et continue à dominer aujourd'hui, donc près de 40 ans après. Et alors, c'était vraiment un objectif majeur. Alors, comme l'a dit Jean-Paul Maréchal, je pense qu'on va aller vers maintenant un accroissement faible, voire presque on va atteindre un pic dans l'utilisation du charbon, bien avant 2030, je pense, qui est l'engagement de la Chine du côté des émissions de CO2.
Oui, car la part du charbon recule dans le mix énergétique, alors, mais elle continue à augmenter en valeur absolue.
Voilà, c'est-à-dire qu'on va se stabiliser aux alentours, comme je le disais tout à l'heure, de 4 milliards de tonnes. C'est plus que l'ensemble du reste du monde. Hein. Il faut encore une fois avoir en tête les masses, les proportions pour la Chine. Et voilà, alors il y a eu effectivement toute une série de mesures qui ont été prises pour essayer de fermer un certain nombre de petites centrales à charbon. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1400 centrales à charbon présentes sur le territoire chinois, pour essayer d'avoir aussi une amélioration technologique de ces centrales de production électrique au charbon, avec des centrales de plus en plus sophistiquées, et puis des engagements aussi provinciaux avec la mise en place de bourses aux émissions de CO2. Donc toutes ces mesures, disons, vont contribuer à faire plafonner le charbon et puis bien évidemment les investissements massifs qui sont réalisés aujourd'hui dans le solaire, dans l'énergie éolienne, dans le biomasse, on espère effectivement que le supplément d'électricité dont la Chine va avoir besoin, eh bien, va permettre, si vous voulez, à ce que ce soit ces énergies renouvelables qui prennent le relais. Ceci étant dit, la dernière relance économique, petite relance économique qu'on a assisté l'année dernière, ça s'est fait sur les infrastructures, ça s'est fait sur l'industrie lourde et on a vu à nouveau un rebond dans l'utilisation du charbon. Donc ce découplage, il n'est pas complètement encore achevé du point de vue du mix énergie et modèle de croissance.
Et en même temps, ces efforts produisent déjà des effets. Il y a une étude qui est parue il y a peu, une étude qui a été publiée par le Center for Research on Energy and Clean Air basé en Finlande, qui dit que le pays a enregistré, la Chine a enregistré une baisse impressionnante de la pollution de l'air par certains polluants entre 2015 et 2019, Jean-Paul Maréchal.
Oui, mais ça c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que effectivement la Chine a fait des efforts et je rejoins tout à fait ce que disait Richard Balm. Faut pas déduire de ce qui peut être dit ici que les autorités chinoises font pas d'efforts. Bien sûr que la pollution de l'air a diminué dans un certain nombre de villes et c'est absolument incontestable. Mais ça n'est pas forcément contradictoire avec le fait que par ailleurs la Chine continue de consommer énormément de charbon. Bon, par exemple, pour compléter ce que disait Jean-François Huchet, la Chine aujourd'hui, pour que les auditeurs aient un ordre d'idée, consomme plus de charbon que la totalité du monde dans les années 70. Donc il faut bien se rendre compte, si vous voulez, de la quantité dont il est question. Et un certain nombre d'experts aujourd'hui avancent l'hypothèse que ne pouvant pas modifier son mix énergétique de manière suffisamment rapide en direction des énergies renouvelables, en fait la Chine a décidé de lancer de nouvelles générations de centrales à charbon dites supercritiques, qui améliorent le rendement de 10 à 15%. Et en 2017, on a assisté à un moratoire sur la réglementation concernant la construction de centrales à charbon. Donc là, si vous voulez, c'est compliqué d'avoir un avis définitif sur ce qui se passe, parce que comme le disait Jean-François Huchet, c'est pas le Grand-Duché du Luxembourg, c'est-à-dire que c'est un territoire immense, et donc on n'a pas forcément une vision très très précise de ce qui s'y passe.
Surtout que si ces centrales à charbon sur son territoire sont moins polluantes, elles continuent à exporter des centrales à charbon qui, elles, sont les plus polluantes. Jean-Paul Maréchal.
Ah ben oui, c'est-à-dire que tant qu'à faire, je veux dire, la Chine, je crois, dans une quarantaine de pays qui sont le long des routes de la soie, je crois qu'il y a 240 projets de construction de centrales à charbon, dont un bon nombre, effectivement, ne pourraient pas être installés en Chine parce qu'elles ne répondraient plus aux normes chinoises. Mmh. Et peut-être une toute petite précision à propos, justement, des énergies vertes, pour revenir sur le chiffre de 15% que vous avanciez au début de l'émission. Ce chiffre de 15% est vrai, mais il faut aux énergies renouvelables ajouter l'hydroélectricité de 8% plus le nucléaire. Et donc c'est dans ces conditions-là, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres précis à la décimale près, mais qu'on arrive effectivement 15%. À peu près autour de 14-15%.
Alors justement, venons-y au nucléaire. Est-ce que c'est une option possible pour la Chine? Le parc nucléaire chinois compte aujourd'hui environ 48 réacteurs nucléaires opérationnels, mais ça ne représente encore effectivement qu'un tout petit pourcentage du mix énergétique, Richard Balm.
4%. D'après mes chiffres, oui, donc c'est tout petit. Hein.
Et alors même que la Chine produit autant d'électricité que la France, autant d'électricité nucléaire.
Absolument. Oui, c'est ça. 54 réacteurs en France et 48 en Chine. La Chine est aujourd'hui le pays où il y a le plus de réacteurs en construction et en commande. 9, je crois. Donc il y a un programme nucléaire, mais l'idée qu'on pourrait substituer, ce que vous venez de dire illustre complètement le problème, c'est-à-dire qu'avec la capacité de production nucléaire française, on fait 4% de l'énergie en Chine. Donc
il faudrait un nombre incalculable de réacteurs.
Il faudrait un nombre incalculable de réacteurs. Il y a des risques sismiques importants en Chine. Il y a de très grands tremblements de terre. Alors les Chinois font attention à ne pas construire dans les zones les plus exposées. Mais enfin, ils ne peuvent pas construire partout. Donc le tout nucléaire à la française n'est pas une option pour eux. Ils peuvent remplacer le charbon par du gaz, ce qu'ils font. Mais ils ont peu de gaz, donc ils en importent beaucoup. Et puis le gaz, c'est encore du fossile, c'est mieux que le charbon, beaucoup mieux que le charbon, mais enfin, voilà. Donc on a une série de... Et puis ce renouvelable à 14%, à 10%, disons, si on enlève le nucléaire. Bah, l'hydroélectrique est à peu près en place, c'est-à-dire que les capacités sont... C'est difficile de faire plus. Et l'éolien et le solaire, il y a de grandes capacités de production, mais très mal connectées au réseau. Les régions de production sont très éloignées des zones de consommation.
Alors on va y venir aux énergies renouvelables, effectivement, mais un dernier mot encore sur le nucléaire. Il y a quand même eu une augmentation de la production nucléaire en Chine de presque 20% en 2019 par rapport à 2018. C'est quand même vraiment une énergie sur laquelle la Chine mise énormément. Il y a aussi ces deux EPR qui ont été mises en service l'an dernier à Taishan, dans le sud du pays. C'est vraiment une ambition affichée, Jean-François Huchet.
Oui, c'est là, non. Tout à fait. Ceci étant dit, je partage tout à fait l'avis de Richard Balbe. Quand vous regardez les projections de l'Agence internationale de l'énergie qui incorpore effectivement tous ces investissements massifs, le nucléaire se situe aux alentours de 6-7% et pas plus dans le mix énergétique chinois. Pour toutes les raisons que vient d'indiquer Richard sur ce qui pèse, il y a environ un doublement de. On est aujourd'hui à 1600 gigawatts en matière de besoins énergétiques. On va doubler en 2040. Et ce doublement ne peut pas effectivement reposer uniquement sur le nucléaire. D'ailleurs, les plus grandes progressions, on va les avoir du côté de l'éolien et puis du solaire, avec les difficultés qu'on vient d'évoquer. Mais c'est dans ces domaines qu'on va avoir les plus grands progrès, certainement.
Les besoins en énergie augmentent, mais la démographie, la croissance démographique ralentit. Jean-Paul Maréchal, il y a eu la première baisse depuis décennie en 2018 de la population, où est-ce qu'on en est ?
Ah, là, pour le coup, je peux pas vraiment vous répondre dans la mesure où je suis pas démographe, mais il semble que effectivement on assiste à un tassement de la population chinoise. Reste que c'est une population en matière de besoins, puisque c'est de ça dont on parle ici. C'est que même si la population chinoise se stabilise, et même si la fin de la politique de l'enfant unique en 2015 ne s'est pas traduit, voyez, par un rebond de la natalité, il faut aussi avoir un chiffre en tête. C'est que entre 1978 et aujourd'hui, le produit intérieur brut par tête chinois a été multiplié par 16. C'est-à-dire qu'il y a plus d'habitants en Chine et ils sont 16 fois plus riches. Donc, bien évidemment, ils consomment plus. Ça veut dire qu'il faut plus d'énergie. Donc, vous voyez, la question en réalité n'est pas réglée par le tassement de la démographie. Et j'ajoute quand même aussi un point pour revenir sur le nucléaire, c'est que l'accident de Fukushima n'a absolument pas stoppé le programme électronucléaire chinois. Et que, en réalité, si on faisait une comparaison avec le Japon, aujourd'hui le Japon décide de se tourner vers le charbon, et que les 2000 morts qui ont été évalués à la suite de Fukushima, ça vient en partie du renchérissement du prix de l'électricité de Japonais qui n'ont pas pu se chauffer suffisamment au Japon, et pas des radiations liées à l'accident.
Je voulais vous demander justement s'il y avait des résistances en Chine vis-à-vis de ce développement du nucléaire. Est-ce que il y a des mouvements de la société civile, même si vous réfléchissez à la Et ainsi, Richard Balme, mais est-ce qu'on observe cela en Chine ?
Ponctuellement, oui. Je mentionnais tout à l'heure le cas d'une centrale nucléaire dont la construction a été stoppée dans le l'Anhui, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, un petit peu, oui, mais c'est assez ponctuel. Et en fait, la société chinoise, elle attend l'accès à l'énergie. La majorité de la population a accès à l'électricité, ce qui fait une grande différence avec les autres pays en développement, et en particulier avec l'Inde. On a un taux d'électrification qui est très, très avancé. Mais elle attend la sécurité énergétique. Et donc, je pense qu'il n'y a pas du tout le rapport... anxiogène à la technologie en Chine qu'il peut y avoir en Europe. Donc c'est vrai sur le nucléaire, c'est vrai aussi sur les OGM, sur les pesticides.
Jean-François Huchet.
Oui, il y a plusieurs éléments qui jouent par moment en faveur d'une amélioration de la situation, puis d'autres dont on a encore trop peu d'analyse en fait. Bon, d'un côté, il y a effectivement le passage vers le tertiaire qui va ralentir la croissance en demande énergétique. Ça, on en est à peu près sûr, on le voit. Mais par ailleurs, il reste encore entre 700 et 800 millions de personnes qui vont accéder à un mode de consommation qu'on appelle le mode de consommation des classes moyennes. Et la grande question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils vont suivre le même modèle de consommation que leurs aînés auparavant, c'est-à-dire acheter une voiture. Alors bien sûr, ils achètent des voitures qui sont moins polluantes, mais ils vont construire encore des logements. Il faut bien voir que entre ce chiffre impressionnant qu'on a souvent cité de 2011 à 2013, que la Chine a utilisé plus de ciment que les États-Unis pendant tout le XXe siècle, reflète tout simplement l'urbanisation et l'accession en fait à des logements décents pour une grande partie de la population chinoise.
Mais sur les voitures, est-ce qu'ils ne vont pas acheter des voitures électriques? Il y a tout de même un grand marché.
Oui, bien sûr, il y a toutes ces questions qui rentrent en ligne de compte. Mais quand on va prendre tous les éléments ensemble, on n'a pas encore effectivement la capacité à analyser tous ces scénarios et voir un petit peu comment tout ça va se stabiliser. Si on peut prendre l'alimentation aussi. Hein, là, on est en pleine crise du coronavirus, mais la consommation de viande est quelque chose aussi qui est extrêmement polluant. Ouais, vous voyez un peu comment tous ces éléments vont quelque part aussi influencer. La dernière chose que je voudrais dire, c'est quand on regarde aujourd'hui les émissions de CO2 par tête de la classe moyenne chinoise, elle n'est pas tellement vertueuse et c'est pas un bon signe puisqu'elle se rapproche doucement mais sûrement des États-Unis. Donc c'est pas un très bon signe.
Jean-Paul Maréchal.
Oui, c'était simplement pour compléter. Effectivement, aujourd'hui, il se vend plus de voitures électriques en Chine par an que dans le reste du monde. Mais si effectivement l'intérêt de la voiture électrique, c'est qu'elle n'émet pas de micro-particules là où elle roule, il faut quand même produire de l'électricité pour la recharger. Donc la question, on revient toujours à cette question de production d'énergie.
Et est-ce que cette électricité pourra être produite dans une large mesure par les énergies renouvelables? On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocky.
Yeah.
Blossom de Li Xiangyan sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Jean-François Huchet, Jean-Paul Maréchal et Richard Balm, sont toujours avec nous pour parler de la transition énergétique en Chine. Alors la Chine est devenue le premier producteur mondial d'énergie solaire. Elle veut même aujourd'hui placer une centrale solaire en orbite, être le premier pays à parvenir à cet exploit. L'objectif, Jean-Paul Maréchal, est d'abord commercial avant d'être environnemental pour la Chine.
Ah, je dirais pas ça. On peut poursuivre deux objectifs simultanément. Hein. Il est évident que d'un côté, vous pouvez avoir un objectif environnemental. On va pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et en même temps un objectif commercial. Disons que l'intérêt pour les producteurs chinois, c'est qu'ils ont un marché intérieur qui est très vaste, ce qui leur permet d'étaler des coûts fixes sur des séries qui sont extrêmement longues. Et puis, quand ils considèrent que fabriquer des panneaux solaires, ça coûte trop cher chez eux, ils peuvent toujours les fabriquer en Malaisie et les exporter à partir de la Malaisie. Donc, il n'y a pas contradiction entre ces deux objectifs. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que l'une des raisons, en tout cas, de la conversion de la Chine à la lutte contre le changement climatique, c'est aussi les potentialités en termes économiques liées à l'exportation de technologies vertes sur lesquelles la Chine s'est positionnée avec le succès qu'on connaît.
Et c'est aussi le cas de l'énergie éolienne que la Chine a beaucoup développée. Le problème, c'est que les parcs éoliens se trouvent en Mongolie intérieure, au Gansu et au Xinjiang, donc très loin des lieux de forte demande d'électricité, Jean-Paul Maréchal.
Ah ben oui, alors là, le problème de l'électricité, c'est que vous en perdez quand vous la transportez. Donc plus vous la transportez sur une longue distance, plus la différence est importante entre ce qui est produit et ce qui arrive. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que généralement dans un pays, on essaye d'optimiser la répartition des centrales, de manière à minimiser la longueur de ligne pour aller de la centrale au lieu de consommation. Et effectivement, vous avez ce problème-là, c'est que parfois là où il y a du vent, il n'y a pas autant de consommateurs qu'on le souhaiterait, donc effectivement, vous avez effectivement une partie de l'électricité qui se perd, sans compter, comme le disait Richard Balm tout à l'heure, des lieux de production qui ne sont pas connectés au réseau. Donc là, pour le coup, effectivement, ça relativise beaucoup les chiffres qui peuvent être annoncés.
Et est-ce que le problème, ce n'est pas que ces énergies renouvelables sont encore trop chères? Je crois qu'il y a un problème de surproduction. 35% de l'énergie produite par le solaire et l'éolien n'est pas utilisée, Jean-François Huchet.
Oui, on retombe sur les problèmes qu'on vient d'évoquer, d'éloignement, de connectivité au réseau. D'ailleurs, je rappelle que déjà, la Chine a mis beaucoup l'accent sur les pertes effectivement de distribution d'électricité qui sont constatées chaque année et elle pourrait déjà faire beaucoup d'économies d'énergie à travers tous les investissements qui visent à réduire effectivement ces pertes dans le maillage et d'augmenter la connectivité aussi du territoire sur le plan électrique. Donc, alors, on peut effectivement penser qu'il va y avoir des améliorations technologiques en matière de batteries, de possibilités de transporter cette électricité. Donc, je pense que d'ici une vingtaine d'années, on va aussi avoir des améliorations technologiques qui vont réduire aussi tous ces coûts qu'on vient effectivement d'évoquer. Donc, on peut être suffisamment optimiste pour penser qu'effectivement le solaire et l'éolien vont monter en gamme. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ça ne représentera pas une part dominante dans le mix énergétique chinois.
Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, notamment dans l'éolien offshore, puisque la Chine compte le plus grand espace maritime qui pourrait être équipé d'éoliennes en mer? Et là, à ce moment-là, ce sont des éoliennes qui seraient proches du littoral. Jean-Paul Maréchal, ça pourrait réduire les problèmes de réseau.
Oui, ça, évidemment. Bon, alors après, moi, je suis pas spécialiste de la technologie des éoliennes et faudrait demander ça à un ingénieur. Donc, il est évident que, effectivement, on pourrait imaginer des parcs d'éoliennes pas très très loin des côtes. Après, je sais pas, avec les typhons qui s'abattent régulièrement sur Hong Kong et sur toutes ces zones-là.
Apparemment, les prototypes résisteraient aux ouragans.
Écoutez, c'est très bien si les prototypes résistent aux ouragans, c'est parfait. Ensuite, il faut y voir, évidemment, aller regarder de plus près. Et un point sur lequel je voulais aussi dire un mot, c'est que il faut bien faire attention, c'est que ce type de source d'énergie n'est pas pilotable. Est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, c'est bien qu'il faut avoir une capacité de production qui est installée, qui est supérieure à la production qui sera réellement injectée sur le réseau. Ce qui est tout à fait différent avec des centrales à charbon ou des centrales nucléaires, où là, effectivement, vous décidez de la quantité d'électricité que vous allez mettre sur le réseau. Parce qu'effectivement, comme le disait Jean-François Huchet à l'instant, c'est que le gros problème de l'électricité, c'est que ça ne se stocke pas. Et que donc vous pouvez pas en produire un jour pour la consommer trois jours plus tard. C'est-à-dire que soit la production est inférieure à la demande et le réseau saute, soit c'est le contraire et le réseau saute aussi. Bon, donc c'est très très compliqué. Et l'un des gros défis qui attendent tous les pays et pas seulement la Chine, c'est effectivement améliorer les capacités de stockage de l'électricité.
Et puis il y a un autre problème qui se pose, Richard Balm, c'est le fait que ces énergies renouvelables, leur essor entre en conflit avec les intérêts des gouvernements locaux. Qui protège l'industrie du charbon à cause des emplois qui l'accompagnent.
Oui, bien sûr, mais je crois qu'on peut faire confiance aux autorités chinoises nationales et locales pour déployer tout le renouvelable qu'elles pourront déployer.
Il y a des fortes résistances tout de même.
Ils sont leaders technologiques. Ils sont leaders technologiques sur ces sujets. Ils ont un marché intérieur. Tout ce qu'ils vont pouvoir déployer, ils vont déployer. Simplement, est-ce que ça va se faire en substitution ou en complément? Pour le moment, c'est plutôt en complément des énergies existantes. Après, c'est vrai qu'il y a aussi en Chine je ne veux pas dire un lobby, mais un secteur énergétique dominé par le charbon, qui est très imposant, très important, jusqu'au cœur de l'État. Ce sont des sociétés d'État avec des intérêts locaux puissants. Donc, bien sûr, ils sont là, comme partout, mais...
Avec éventuellement le problème de la corruption aussi.
Oui, corruption, si on veut, mais... c'est le beurre et l'argent du beurre, un peu, mais en Chine, il y a quand même une situation par laquelle, quand le gouvernement central veut quelque chose, par cette courroie de transmission très forte qu'est le Parti communiste, il arrive à le mettre en œuvre. Il a, en tout cas, des capacités, quand il met toute sa volonté derrière, à faire avancer des sujets, à faire avancer des dossiers... très fortement.
Donc, les avantages de l'autoritarisme. Ça marche en matière d'écologie.
Un des avantages qui a ses limites aussi, parce qu'il peut pas tout non plus. Il y a beaucoup de choses qui se font pas simplement du haut en bas. Mais déployer un grand programme industriel comme ça, sur un mode de planification quasi-soviétique, les Chinois savent très bien faire ça. Donc,
mais c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que ce régime autoritaire n'est pas, d'une certaine façon, le plus efficace pour lutter contre le changement climatique et pour amorcer et développer cette transition énergétique, Jean-François Huchet?
Je crois qu'on peut pas... On peut pas
La question est volontairement provocatrice.
Je me souviens d'une émission il y a quelque temps, chez un de vos collègues qui avait posé cette même question, et je pense qu'on était peut-être tous les deux avec Jean-Paul Maréchal à y répondre non. Pourquoi ? Parce que d'abord, si ça avait été le cas, on ne serait pas arrivé à cette situation catastrophique dans laquelle la Chine est aujourd'hui, qui traverse une crise environnementale majeure qu'on n'a même pas imaginé pouvoir avoir dans nos économies, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est pas tant les nouveaux investissements, comme le dit Richard très justement, c'est-à-dire que là, il y a une capacité à aller vite, peut-être plus vite qu'ailleurs, et de mobiliser des ressources. Là où c'est plus difficile, c'est de sortir d'une addiction au charbon. Et vous avez des provinces qui produisent du charbon depuis de longue date, avec, comme l'a rappelé Richard, des lobbies, je pense qu'il faut utiliser le mot, très 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 forts, qui sont très bien positionnés. Et puis il y a des signaux contradictoires dans lesquels les provinces et les municipalités sont quelque part, dans lesquels ils sont empêtrés. C'est-à-dire que d'un côté on leur demande de faire de l'énergie verte, de devenir vert, et puis de l'autre côté on leur demande de maintenir la stabilité sociale, qui est un des objectifs majeurs quand même d'un gouvernement, du gouvernement communiste, pour justement essayer de ne pas avoir de trop de chômage, de ne pas avoir de problèmes politiques. Donc quand vous êtes un gouverneur de province, vous êtes pris quelque part entre deux feux, et très souvent, le clientélisme aidant, eh bien vous allez, oui certes, de temps en temps, quand il y a une inspection, ou effectivement faire un petit effort, mais pas suffisamment, effectivement, pour que ce soit véritablement déterminant, notamment dans un certain nombre de provinces, et on les connaît. Ce sont les provinces, effectivement, grandes productrices de charbon, et puis toutes les provinces du Nord-Est, et puis du côté de Shanghai, où est concentrée l'activité industrielle.
Et puis la corruption est plus aisée quand les échelons administratifs sont nombreux. Pendant longtemps, par exemple, la gestion de l'eau a été éparpillée entre plusieurs administrations. Or, la pollution de l'eau est devenue un problème de santé publique, comme on l'entend dans ce témoignage.
Quand je bois, j'ai des éruptions cutanées et je garde dans la bouche un arrière-goût amer. Je ne peux plus manger et je n'ai pas de force pour marcher. Et puis je suis couverte de boutons. Je me sens extrêmement faible. Depuis que je suis malade, tout mon corps me fait mal. J'ai les os et les articulations enflées.
Les médecins ont mis longtemps avant de trouver ce qu'elle avait. C'est dans une clinique en ville qu'ils ont finalement diagnostiqué le cancer des os. Les analyses de leur puits ont révélé que l'eau contenait des teneurs en métaux lourds 3000 fois supérieures au seuil autorisé. Nous avons collecté et analysé des données sur 8 ans. Les résultats montrent qu'ici, il y a beaucoup plus de décès que dans d'autres régions. Le taux de cancer dans ces villages est 15 à 24 fois plus élevé qu'ailleurs.
Voilà un extrait d'un documentaire diffusé sur Arte en 2014 intitulé « La Chine empoisonnée ». À cette pollution de l'eau, Richard Balme, l'État a répondu par une réorganisation de l'administration, de la gestion des ressources aquatiques.
Oui, oui, il y a des lois nouvelles sur l'eau, une loi toute récente de 2018 qui a été mise en place, mais qui s'ajoute à celle qui existait avant. Je pense que ce qu'on vient d'entendre, c'est le l'héritage en quelque sorte de long terme de la politique industrielle, enfin de appelons ça plutôt l'industrialisation de la Chine telle qu'elle s'est faite depuis plusieurs décennies, et que les choses ne se font plus comme ça aujourd'hui. Il reste que ces villages sont là, hein, c'est cancer village, comme on dit en anglais, ces villages de cancer. La Chine n'en a pas le monopole, hein, vous avez aussi des...
En Inde également.
En Inde, mais vous avez aussi Cancer Alley aux États-Unis, en Floride, couloir de la pétrochimie, tous les sites Céveso, proximité des sites pétrochimiques sont très impactés en matière de santé publique. On le découvre aussi ici. Simplement, c'est la Chine, c'est puissance 10, et pendant longtemps, la régulation était extrêmement faible. Je voudrais juste dire un petit mot, parce que, bon, ça c'est l'eau. En fait, les Chinois, en matière de santé, sont plus impactés par l'eau que par l'air. Hein. Et ce que disait Jean-Paul tout à l'heure est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est par la pollution de l'air que l'administration de Xi Jinping s'est vraiment mise au travail sur l'environnement, pour pratiquement des questions de classe sociale. Les inégalités, je sais que vous avez parlé des inégalités, je crois, hier, les inégalités environnementales en Chine sont particulièrement importantes.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une plus grande surveillance, notamment à travers les responsables politiques locaux qui sont désormais évalués en fonction de leurs résultats en matière environnementale, Jean-François Huchet ?
Oui, c'est désormais rentré dans le... on va dire, dans les différents critères qui vont déterminer la promotion plus ou moins rapide, mais ce ne sont pas les seuls. Pendant très longtemps, c'était effectivement cette question de capacité à maintenir la stabilité publique, à créer des emplois, à par moment même avoir un PIB très important, ce qui a occasionné aussi toute une série de surenchères et un modèle très quantitativiste et qui aussi a entraîné bien de la pollution, puisqu'on a dopé le PIB
pour se faire bien voir de Pékin, les régions pouvaient gonfler leurs chiffres.
Oui, et puis non seulement, puis on a reconstruit aussi des tissus industriels les plus complets possibles un peu partout, ce qui a démultiplié les aciéries, démultiplié les cimenteries. Donc ça, c'est quelque chose qui a aggravé la situation. Donc oui, l'environnement compte aujourd'hui un peu plus, mais on est toujours dans ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, dans ces signaux contradictoires envoyés par le gouvernement central. D'un côté, on vous demande d'être vertueux, et puis de l'autre côté, on vous demande aussi de continuer à créer des emplois. Alors la démographie aidant, c'est vrai que la Chine va disposer dans les années à venir d'une fenêtre qui est beaucoup moins contraignante effectivement sur ces questions, et qu'elle va peut-être pouvoir effectivement sortir de ce cercle qui était difficile sur la démographie qu'on avait dans les années 80-90, où, je le rappelle, il fallait quand même créer entre 10 et 15 millions de nouveaux postes de travail par an.
Jean-Paul Maréchal.
Oui, alors donc peut-être pour rebondir sur la démographie, c'est-à-dire qu'effectivement c'est plutôt une bonne nouvelle que la démographie se stabilise, mais avec l'enrichissement des ménages chinois dont je parlais tout à l'heure, il est évident qu'il y a une diversification du bol alimentaire du chinois moyen. Donc c'est-à-dire on va consommer par exemple plus de viande, donc l'impact sur la consommation d'eau est aussi plus important. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Et puis effectivement sur pourquoi est-ce qu'il y avait de la pollution partout. Je pense qu'on pourrait dire d'un mot, c'est que c'est aussi un peu un héritage de l'histoire de la Chine depuis 1949, où il s'agissait d'avoir des capacités de production un peu partout, des fois que les Soviétiques attaquent après 1960, etc. Ce qui a conduit effectivement à la multiplication de sites de production plutôt plus petits qu'il aurait fallu, donc moins efficaces, donc plus polluants. Donc on est aussi, même si on est un peu loin de cette période, il y a quand même toujours un peu des vestiges de ce type de démarche, d'où les 8000 cimenteries dont parlait Jean-François tout à l'heure.
Jean-François Huchet, vous parliez de cette contradiction entre ce qui est demandé aux provinces en termes de création d'emplois, de croissance économique, et en même temps d'exigences en matière d'écologie. Aujourd'hui, la Chine connaît un ralentissement de son économie. Est-ce que face à ce ralentissement, il n'y a pas une tentation de reculer effectivement sur le plan écologique? Je pense par exemple aux suppressions des subventions sur le solaire et aux diminutions des subventions sur l'éolien terrestre. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard Balm?
Alors certainement que, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, les plans de relance sont plutôt industrialistes, donc un peu moins orientés vers ces questions-là. Mais non, moi je pense que les mesures qui sont prises... Je pense que là où le régime de Xi Jinping est intelligent, c'est qu'il a pris acte du fait que cette transition écologique, même si le mot est fort pour la Chine, mais enfin, c'est une nouvelle économie qui se dessine, et il veut être leader sur le sujet. Donc ils vont continuer leur politique de subvention, de soutien, à la fois à l'intérieur et pour développer leurs industries.
Mais ils s'accordent une certaine souplesse, par exemple, en levant les interdictions des poêles à charbon ponctuellement, ou lorsque face à la guerre commerciale, la Chine abandonne les plafonds de production de charbon et d'acier dans certaines régions, Jean-François Huchet?
Oui, il y a un pilotage très fin de cette politique, mais... De toute façon, il faut bien voir que la Chine, et on l'a vu avec ces grands scandales qui ont été l'apocalypse ou ce qu'on a connu sur l'eau, la Chine avait très certainement atteint des limites quasi presque physiques de son modèle de développement. Donc elle n'a pas le choix. Ce ne sont pas les pressions de l'extérieur qui vont changer le modèle de développement chinois. C'est une nécessité pour la Chine et une opinion publique qui se radicalise, qui... en train de s'enrichir, qui demande à ce que sa situation s'améliore sur toutes ces questions, les scandales alimentaires qu'on a eu à répétition, enfin bref, on a une liste très très longue. Donc c'est, je crois, une question de survie pour le Parti communiste. Et à chaque fois que le Parti communiste voit apparaître sur son radar quelque chose qui potentiellement est dangereux pour sa stabilité et pour sa survie, le Parti évolue, c'est sa grande force. Et donc là, je pense qu'il n'y aura pas de remise en cause, d'autant plus qu'ils y voient des avantages, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan international, de devenir leader sur quelque chose dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Donc je pense pas qu'il y aura une remise en cause. Simplement, il faut pas non plus verser complètement de l'autre côté et être totalement béat devant la Chine et penser que la Chine va nous sauver.
La civilisation écologique promue par Xi Jinping, Jean-Paul Maréchal.
Oui, et d'ailleurs, ce que dit Jean-François fait écho un peu à votre question de tout à l'heure. Oui, vous avez pas besoin d'être une dictature pour mettre en place une politique qui donne satisfaction aux citoyens. C'est-à-dire que précisément, si la Chine aujourd'hui, le pouvoir chinois est à la manœuvre pour améliorer les conditions de vie, c'est justement parce que finalement, il s'agit aussi d'aller dans le sens d'une opinion publique qui est privée de pouvoir politique, mais vis-à-vis de laquelle le parti s'est engagé de longue date à améliorer ses conditions de vie. Et donc là, on voit bien, vous voyez, que la question de l'efficacité des dictatures, c'est une question qui, de ce point de vue-là, en tout cas dans ce contexte-là, n'a pas de sens.
Richard Balm.
Oui, un tout petit mot là-dessus. Avec la Chine, il faut quand même dire qu'on a une grande chance de ne pas avoir un Bolsonaro ou un Donald Trump à la tête d'un pays comme celui-là. Parce que la politique de Xi Jinping n'est pas celle-ci en matière environnementale. On ne défait pas la régulation environnementale. Il y a une vraie volonté de chercher à protéger l'environnement. Ceci dit, ça c'est ce qui est en cours. On ne sait pas ce que nous réserve la suite. Et si par malheur nous arrivait un négationniste climatique à la tête d'un pays comme celui-ci, il aurait beaucoup de pouvoir et il pourrait aller très vite pour tout démonter. L'autre limite de ce qu'on appelle quelquefois cet autoritarisme environnemental, c'est-à-dire cette conduite autoritaire d'une politique environnementale, c'est qu'en fait tout se fait du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état de droit au sens propre du terme, il n'y a pas d'indépendance de la justice, il n'y a pas d'indépendance de la presse, l'activité des citoyens est très contrôlée, mesurée, même s'il y a des mouvements sociaux, de protestation, etc. Mais du coup, toute la politique environnementale qui se fait par le bas, en Chine, elle se fait très mal. Et c'est ce qui fait qu'elle est aussi mal appliquée, en fait.
Et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher, par exemple, au projet des éco-cities, d'être des projets assez verticaux. Et donc, ces villes qui sont censées être de véritables projets écologiques ne sont finalement peut-être que des vitrines, Jean-François Huchet.
Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Quand vous prenez la nouvelle loi sur l'environnement en 2015, elle, par exemple, donne toute une possibilité pour ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Et puis par ailleurs, vous avez d'autres politiques qui vous interdit sur les réseaux sociaux d'avoir tant de followers, parce qu'on va vous arrêter systématiquement pour des raisons politiques. Donc vous voyez, d'un côté, on essaye de favoriser un certain nombre de politiques en faveur de l'environnement, puis de l'autre côté, vous avez une réduction, quelque part, d'une possibilité politique pour la société civile de s'exprimer. Et il faut dire quand même qu'avec Xi Jinping, cette possibilité s'est considérablement restreinte. On a évoqué tout à l'heure, Richard Balm a évoqué tout à l'heure, la constitution d'un embryon de société civile au croisement des journalistes, des scientifiques. Aujourd'hui, il faut bien voir que tout cela est quand même très difficilement continue à évoluer de manière très difficile dans des
situations.
C'est
verrouillé.
C'est très verrouillé. Malheureusement, c'est vrai dans les droits environnementaux, mais aussi sur les droits civiques, sur les droits économiques et sociaux. Donc on a une restriction de ce point de vue-là, de la possibilité de voir effectivement la société civile contribuer à ces questions.
Jean-Paul Maréchal, un dernier mot.
Oui, bon, enfin, c'est-à-dire que là, je suis tout à fait dans le droit fil de ce que vient de dire Jean-François. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à s'extasier sur d'éventuels projets de Smart City, mais il faut bien comprendre, c'est que Smart City plus crédit social, plus intelligence artificielle, c'est vraiment des villes dans lesquelles on n'a surtout pas envie d'être.
C'est des villes de la surveillance, et on pense aussi au Forest City, oui. ce projet d'une ville forêt entièrement recouverte de végétation qui devrait voir le jour au sud de la Chine. Effectivement, il faut faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la déclaration et ce qui est de l'ordre du véritable progrès. Un grand merci en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet, le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
La concurrence ferroviaire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que la région Sud, ex-PACA, lance ses premiers appels d'offres pour ses lignes TER. Alors qui en profitera?
En tout cas, la région Sud est bien la première des régions françaises à ouvrir son marché, pressée de remédier à une offre qualifiée il y a quelques semaines par Renaud Muselier de désastreuse. Opération profitable financièrement, puisque rien qu'avec ce premier appel d'offres de presque 2,4 milliards d'euros sur 10 ans pour exploiter les lignes et renouveler les rames, eh bien la région pourrait presque financer les 285 millions d'euros qu'elle dépense habituellement chaque année pour ses transports ferroviaires, sans compter d'ailleurs les recettes en partie reversées par les futurs exploitants, pour qui c'est une opportunité d'ailleurs, pour les opérateurs français comme Transdev, mais aussi pour les étrangers qui sont déjà bien présents en PACA, comme l'italien Tello. Reste à voir pour la SNCF, par contre, désormais société anonyme, et dans la posture délicate du gestionnaire historique, monopolistique et parfois décrié. Après l'ouverture à la concurrence du fret en 2005, elle avait ainsi perdu 40% de son marché. Mais là, ce sera différent, assure le spécialiste des transports Yves Crozet, l'économiste Laet de Lyon.
La région Sud a été considérée depuis plusieurs années comme la région la plus problématique pour les trains express régionaux, puisque à la fois en termes de coûts pour la collectivité, c'était un des plus élevés par voyageur kilomètre ou par train kilomètre, et en matière de fiabilité, de niveau des retards, c'était aussi une des régions où les résultats étaient les plus mauvais. Pour le fret, vous avez moins d'une dizaine d'entreprises qui opèrent, et ça a été le choix de la SNCF de réduire fortement son trafic de fret avant même l'ouverture à la concurrence, parce que tout simplement elle faisait beaucoup de pertes sur ce secteur. Là, la SNCF va entrer en concurrence avec d'autres opérateurs. Si on regarde, mais là il faut regarder à horizon de 5 ou 10 ans, puisque la mise en place de la concurrence en France, ça va se faire tout au long des années 2020, et ça ne va représenter qu'une partie totale. Si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, après 15 ou 20 ans d'ouverture du train régional à la concurrence, les concurrents ont pris moins de 30% du marché.
En tout cas, les régions sont bien en première ligne pour la mise en concurrence de tout le réseau ferroviaire français.
Et oui, en première ligne, c'est le mot, parce que le réseau TER représente plus de 70% des 28 000 km de voies françaises, et parce que, vous avez entendu Yves Crozet, la mise en concurrence des TER sera obligatoire pour toutes les régions à partir de 2023. Trois autres devraient d'ailleurs suivre cette année, mais un des problèmes pourrait venir de l'État, qui a lui lancé ce qu'il appelle un plan de sauvetage des petites lignes, avec la reprise de certaines, mais qui pourraient peser quand même sur les finances des régions, ce qui fait que c'est un Yalta des petites lignes, écrivait un journaliste de l'AFP un peu poète.
On passe au bref, l'échelle régionale également au cœur de la nouvelle dynamique industrielle française.
Oui, plus de fermetures d'usines et moins de création d'emplois industriels en 2019. Ce sont les deux tendances d'une étude publiée hier par le cabinet Trendéo. Même si le rythme de création se ralentit de moitié avec 10 000 emplois l'année dernière, de plus en plus, ils le sont sur des sites existants qui s'étendent et non pas sur des sites nouveaux. Et d'ailleurs, des régions spécialisées comme la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement touchées dans l'agroalimentaire, totalise à L2 l'ensemble des 12 sites fermés. Ainsi, la réindustrialisation qu'on appelle 4.0 tarde, alors qu'une série de mesures, là aussi censées accélérer les implantations aux procédures parfois très longues, est en préparation.
Fin de partie pour CTLM, la filiale de BNP Paribas est lourdement condamnée pour avoir vendu des prêts pourris à des milliers de clients.
Et oui, les prêts Helvet Immo, la banque a été reconnue coupable de, je cite le tribunal, pratiques commerciales trompeuses et recel du délit pour avoir proposé à leurs clients des prêts libellés en francs suisses à l'époque sans avoir mentionné le taux de change avec l'euro comme facteur de risque. Or, précisément, ces prêts proposés en 2008-2009, juste avant que ce taux n'explose, ont fait doubler presque et ruiner potentiellement les clients. L'amende de BNP Paribas, quoique maximale, est assez faible, 190 000 euros, mais elle devra quand même payer des millions en dommages et intérêts.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Les auditeurs peuvent réécouter votre journal de l'écho sur franceculture.fr et sur toutes les bonnes applications de podcast. On vous retrouve lundi. Bon week-end. Camouflage the waving sky. I sit at my piano, wonder the while we're by. And the lilacs drank the water, and the lilacs died. And the lilacs drank the water, marking the slow, slow, slow passing of time. I get so angry, babe. On se quitte avec Lilax, le titre de Waxahachi. Merci beaucoup Jean-François Huchet, Jean-Paul Maréchal et Richard Balm de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Émission préparée par Marguerite Caton, Isolde Sicard, Aliette Ovine, Paloma Seuria-Brun et Alain de Recourt. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Youtou Diego Aclopès. On se retrouve demain pour notre débat du vendredi. Peut-on se passer des banques? On posera la question à Jean-Édouard Colliard et Jésabelle Coupé-Soubéran. Et encore un mot pour vous rappeler que l'on vous attend nombreux au forum organisé samedi par France Culture à la Sorbonne. Rendez-vous à 14h30 pour une discussion autour de l'actualité de la lutte des classes. Le cours de l'histoire, les chemins de la philo, le temps du débat et la grande table seront également présents. L'entrée est libre mais la réservation est obligatoire sur le site de la Maison de la Radio. Sparse existence, I'll drop down in the fold, lean into an urge and falter, spin silence into gold, running like the crop of kismet.